Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, la libre antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix, pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces jours-ci dans l'actualité française, internationale, africaine. C'est l'occasion de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous. C'est l'occasion aussi de nous parler des sujets qui font l'actualité dans votre pays. Libre antenne jusqu'à 10h de Paris, 9h temps universel, 33 9 693 693 70. 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Pour lancer cette libre antenne avec nous, Moncef. Bonjour Moncef.
Oui, bonjour. Donc moi j'ai voulu revenir sur les événements qui sont passés en Tunisie.
Oui, vous êtes franco-tunisien, vous nous appelez de Paris et vous souhaitiez réagir à l'attentat contre le musée du Bardo. Hein.
Exact. Moi je suis un ressortissant tunisien, je suis un franco-tunisien. Et je suis responsable commercial pour l'Afrique du Nord, pour une société qui traite les problématiques de sécurité sur Internet. Oui. J'ai une pensée profonde pour ceux qui ont perdu leur vie à cause de ces actes, on va dire lâches, c'est le minimum des choses qu'il faut dire. Et je pense ce que visent ces gens-là partout, un peu partout dans le monde, et pas uniquement en Tunisie, mais on voit qu'il y a plus de... Il n'y a plus de frontières en fait pour ces mouvements terroristes. C'est que ce qu'ils visent surtout en Tunisie, c'est déstabiliser cette nouvelle démocratie. Mmh. Ce qui reste de ce qu'on a appelé le printemps arabe, en fait, c'est la dernière bougie qui est en train de essayer de faire face à cet hiver glacial après le printemps arabe.
Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas la première attaque terroriste en Tunisie, mais jusqu'à présent, le terrorisme visait essentiellement les forces de l'ordre. Là, en tuant des étrangers, on veut d'une certaine façon tuer le tourisme, donc saboter l'économie. Et quand on sait très bien que quand l'économie va très mal, eh bien, ça fragilise la démocratie.
Exactement, mais pas uniquement. Je pense vraiment le plus important, c'est... C'est l'attaque vers ces êtres humains-là, ces innocents. C'était la même chose en fait à l'époque de Ben Ali, en fait à Djerba, on se rappelle bien que les terroristes, ils ont tué des terroristes. Aujourd'hui, ça se répète, mais d'une façon plus dangereuse. Mmh. Ça montre en fait qu'il y a des failles, il y a des brèches de sécurité et que les Tunisiens tous, en fait, que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, il faut qu'ils vraiment se mettent en marche. Il faut arrêter ce laxisme. Il faut vraiment aujourd'hui utiliser les moyens démocratiques, surtout les moyens démocratiques, être clair avec le peuple, en fait, dire la vérité, toute la vérité, et que tout le monde se mette en marche.
Et dire la vérité, c'est dire aux Tunisiens qu'ils le savent, mais rappeler qu'il y a en ce moment, sur le territoire tunisien, 500 jeunes Tunisiens qui sont revenus de leur djihad en Syrie et en Irak.
Voilà, il faut affronter en fait cette problématique-là. La jeunesse tunisienne qui a donné sa vie, elle a donné beaucoup de jeunes en fait pour la révolution tunisienne, elle se retrouve aujourd'hui dans un échec. Il n'y a pas de réponse à toutes les questions qui ont été posées pendant la période de la révolution, 4 ans qui sont passés, sans que ceux qui dirigent le pays, les partis politiques ou la société civile, les associations, donnent une vraie réponse à ces jeunes-là. Donc ces gens-là se trouvent aujourd'hui entre soit un avenir de terroriste, soit en fait dans l'échec, sans emploi, sans avenir. Je pense qu'il faut vraiment affronter le problème, pas uniquement avec des mesures sécuritaires, mais surtout en fait avec une conférence importante qui permettra à ces jeunes diplômés, à ces jeunes qui sont à l'échec, qui passent leur temps dans les cafés, vous regardez en Tunisie, la majorité des cafés tunisiens sont remplis de jeunes qui ne font rien. Ces jeunes-là sont tentés par de l'argent. On sait aujourd'hui que le terrorisme n'est pas uniquement ceux qui vont aller combattre en Syrie, mais le terrorisme est lié aussi à tout le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'argent. Et tout ça, en fait, il faut que la société, il faut que les partis politiques fassent face réellement à ces problématiques-là. Et qu'on ne traite pas uniquement les 500 jeunes qui sont partis, qui sont revenus.
Sur un plan uniquement sécuritaire, on a bien compris qu'il y a un volet social évidemment à prendre en compte. En tout cas, on a vu que dès mercredi soir, hein, on a vu que les Tunisiens se rassemblaient pour dire eh bien non, nous ne céderons pas au terrorisme. Moncef, merci d'avoir appelé de la région parisienne. Merci de cette réflexion. 33 9 693 693 70. Vous êtes très nombreux à nous appeler tout au long de la semaine pour commenter le processus de paix au Mali, le projet d'accord de paix. L'événement de la semaine, eh bien, c'est que la coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe plusieurs mouvements rebelles, a refusé de paraffer le texte. La CMA exige des modifications dans le document qui a été conclu il y a maintenant une quinzaine de jours en Algérie. Bonjour Fadiala.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako et vous dites qu'il n'est pas question de modifier la moindre ligne du document conclu à Alger le 1er mars.
Voilà. Juan, moi je dis qu'il n'y a aucun mot, aucune phrase ne sera modifiée de ces accords parce que je crois que le Mali et les partenaires du Mali ne vont pas céder au chantage de ces soi-disant leaders du MLNA. Ils ont assisté au débat et pendant 8 mois, ils n'ont pas proposé de modifications. Et quand le Mali a ratifié, ils ont refusé, ils disent qu'ils vont aller demander d'abord à la base. Et le résultat que nous recevons, c'est ce qu'on nous demande. Et l'idée qui est derrière ces revendications fera que nous n'allons pas accepter ni de modifier le contenu.
Fadiala, en même temps, est-ce qu'on peut être surpris du refus de la CMA de signer cet accord, puisque cet accord, je le signale, ne parle à aucun moment ni d'autonomie de la Zawad, ni de fédéralisme, et encore moins d'indépendance. Pourtant, ce sont les revendications de ceux qui ont pris les armes.
On n'est pas surpris parce que vous savez que dans la pensée de ces leaders du MNLA, l'essentiel de ce qu'ils veulent faire de Kidal ne contient pas les accords. Et là, nous n'allons pas aller sur cette base parce qu'ils sont en train de nous faire sentir les partenaires du Mali. Ils n'ont rien à proposer à Kidal. Pendant 2 ans, ils ont isolé Kidal. La population vit mal. La santé, l'éducation.
Eux vous diront à Kidal, il suffit de regarder ce qui s'est passé la semaine dernière, il y avait des centaines de personnes qui ont manifesté pour dire non au projet d'accord de paix. En tout cas, les mouvements rebelles, eux, exigent des modifications. Ils veulent une reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité géographique, politique et juridique. Et ils veulent aussi, parmi les revendications, un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. Mafouz, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Vous êtes malien, vous nous appelez du Caire, et vous nous dites que sans fédéralisme, il n'y aura jamais la paix au Mali.
Oui, vraiment, parce que moi je pense qu'il faut une solution consensuelle entre les deux parties qui sont en conflit, qui sont en guerre. Donc, vraiment, aujourd'hui, la CMA, je pense qu'a donné sa bonne volonté pour aller dans un processus de la paix durable et définitif. Par contre, nos frères qui viennent d'appeler de Bamako, ils parlent qu'il n'y aura aucune modification dans l'accord. Alors, à mon avis, ça, c'est vraiment, ça n'encourage pas vraiment la paix. Parce que nous sommes dans un temps qu'il faut que toutes les deux parties réfléchissent pour avoir une solution durable à ce conflit qui a duré pendant plusieurs décennies. Pendant 5 décennies, nous sommes dans ce conflit.
Ouais. Donc, mais Mafouz, Fadiala disait qu'il ne souhaitait pas voir modifier la moindre ligne. Le gouvernement malien a dit exactement la même chose. Le gouvernement malien exclut toute idée d'ouvrir de nouvelles négociations.
D'accord, parce que le gouvernement malien veut mettre des projets de la Zawad, un projet de financement, un projet pour toujours avoir des financements de la communauté internationale. Donc la paix vraiment n'intéresse pas malheureusement le gouvernement malien. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est la communauté internationale, c'est la médiation dirigée par l'Algérie de prendre sa responsabilité pour vraiment amener une paix durable dans cette région.
Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui... La médiation internationale a été claire. Hein. La médiation a dit la négociation est terminée. Plus question, là aussi, de modifier le texte, même si la médiation reconnaît que l'accord qui a été trouvé en Algérie il y a 2 semaines n'allait pas résoudre immédiatement tous les problèmes. Fadiala, vous qui êtes à Bamako, oui. Que faut-il faire maintenant alors ?
Moi, ce que je veux, il faut qu'on organise un référendum à Kidal pour laisser les populations s'exprimer au lieu de donner la parole à soi-disant représentants de la population. Ils ne représentent rien.
Alors que faire ? Un référendum alors ?
Oui, un référendum et la population, vous allez voir que le oui des accords de l'Algérie vont apporter oui. sur le non.
Oui. Mahfouz, attendez, Mahfouz qui est pour le fédéralisme, faut-il organiser un référendum ?
Bon, moi je pense que si le Mali vraiment ne veut pas reprendre la négociation pour avoir arrivé à une solution négociable, vraiment il faut aller dans un référendum dans toute la zone. Moi je dirais pas Kidal comme les frères viennent de dire, dans toute la zone, nous allons voir que 90% de la population de la Zawad vraiment est pour l'indépendance d'ailleurs.
Bon, bah écoutez, on aura l'occasion de prolonger le débat, référendum ou pas, faut-il l'organiser uniquement au nord ou pourquoi pas sur l'ensemble du territoire malien. Voilà de quoi susciter encore des réflexions et des débats dans les prochains jours. Merci à tous les deux, Fadiala de Bamako et Mahfouz, merci d'écouter RFI au Caire. On me disait que vous étiez juste en face du Nil pour nous appeler, vous avez bien de la chance, profitez-en. 33 9 693 693 70, la grogne sociale au Togo. Bonjour Richard.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous êtes à Lomé, Togo, oui. Perturbé hein, la capitale togolaise cette semaine à cause d'une grève dans la fonction publique. Et vous êtes très en colère contre les autorités.
Tout à fait, je suis très en colère. Je veux vraiment exprimer ma colère, mon étonnement, ma déception surtout. Vous dites que ça dure depuis une semaine. Non, ça dure depuis des mois, voire même depuis des années.
Non, attendez, je parle de la grève. La grève, elle a duré cette semaine. Enfin, c'est une grève de 3 jours.
Au niveau des enseignants, c'est des grèves à répétition, hein, chaque semaine pratiquement depuis la rentrée. Au niveau des enseignants, par exemple. Bon, alors donc, moi, je me demande pourquoi les autorités jusque-là ne prennent pas les problèmes au sérieux, ne rencontrent pas les syndicalistes. Moi, j'ai été enseignant dans les années, au début des années 90. L'ancien président, Yadema, à pareil moment, nous rassemble les syndicalistes, les responsables, on discute, on trouve des solutions. Depuis là, ça traîne, hein, ça paralyse surtout l'enseignement, les primaires et le secondaire. Actuellement, je vous avoue que depuis le début d'année, nos passes faites de cours, tout est paralysé. Moi, je ne comprends pas.
Les écoles sont fermées en ce moment, Richard ?
Tout à fait. Bon, on ne fait pas tellement fermer, mais il n'y a pas de choisir. 90% des établissements ne fonctionnent pas. Même les privés, là, les enfants, les élèves de l'enseignement public vont déloger ceux qui sont dans le privé qui continuent les cours.
D'accord. Donc à vous entendre, Richard, aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue entre les autorités et les syndicats.
Bon, il y a eu des dialogues entre-temps, mais les autorités reprochent aux enseignants d'être trop exigeants, d'attendre alors que les enseignants refusent. Donc apparemment, ça n'aboutit pas.
Ce que réclament les syndicats, c'est une revalorisation des salaires qui, disent-ils, en 20 ans n'ont quasiment pas augmenté. Ils réclament aussi augmentation des allocations familiales. 2000 francs CFA par enfant depuis 1960. 2000 francs CFA, c'est 3 euros. Donc eux réclament plus d'allocations familiales, ainsi qu'une augmentation du SMIC. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est vous dites qu'il n'y a pas de dialogue alors qu'on est quasiment en campagne électorale. Le Togo est censé organiser l'élection présidentielle dans moins d'un mois. Ce sera le 15 avril. Donc on verra si d'ici là, le bras de fer syndicat et gouvernement perdurera ou sera terminé. On me dit au casque qu'on a Mahmoud. Merci à vous, Richard. Mahmoud, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oula, le réseau téléphone n'est pas bon. Vous êtes plusieurs à nous appeler de N'Djamena au Tchad et malheureusement on a du mal à vous rappeler. Le réseau passe pas dans le sens Paris Tchad et comme plusieurs auditeurs, Mahmoud, vous souhaitez réagir à l'arrestation de 11 policiers après la répression d'une manifestation d'étudiants qui protestaient contre le port du casque obligatoire pour les deux roues. Je rappelle qu'un étudiant est mort lors de ce rassemblement et vous savez. Saluez-vous l'arrestation de ces policiers ?
Oui, tout à fait, M. Rouen. De prime abord,
L'image humiliante et pleine d'abjection subie par les événements mérite indiscutablement une correction, puisque beaucoup de nos compatriotes ont eu en effet un peu après avoir vu cette vidéo non moins coupable.
Alors, vous faites référence à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et on y voit des policiers en treillis, des policiers du groupement mobile d'intervention de la police qui maltraitent des élèves qui sont torse nu, et les policiers les obligent à se rouler dans le sable et ensuite la police leur donne des coups de fouet. Donc évidemment des images choquantes, violentes ce qui a donné lieu donc à l'interpellation de ces 11 policiers.
Oui, à travers cette interpellation, elle vient à point nommé calmer les esprits et décrypter l'environnement sociopolitique non moins délétère dans lequel cette vidéo abjecte a plongé tout le peuple tchadien. Il va sans dire, M. Rouane, qu'à travers le jugement de ces policiers indélicats, l'image du gouvernement sera redorée et en filigrane servira d'exemple de bonne conduite à toute la corporation policière. Monsieur Rouane, cette vidéo infâme des tortures des élèves est inédite dans notre pays par sa nature et par l'ampleur qu'elle a suscité. Donc, du coup, l'on ne peut que se réjouir de la comparution des policiers incriminés devant les instances juridictionnelles compétentes.
Ouais. En tout cas, vous avez été nombreux à souhaiter réagir à la publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est inédit pour le Tchad. Merci beaucoup de nous avoir appelés et on s'excuse pour le réseau téléphone, mais c'était important effectivement d'avoir au moins un auditeur sur ce sujet puisque vous étiez plusieurs à souhaiter en parler. Bonjour Carole.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs.
Vous êtes en région parisienne, vous nous avez envoyé un courrier électronique cette semaine pour réagir à la décision des autorités de Kinshasa de libérer et d'expulser du pays les militants du mouvement sénégalais Yanamar et du mouvement burkinabé Balèze Citoyen. Vous avez eu l'occasion de travailler avec le mouvement Yanamar au Sénégal.
Oui, tout à fait. Je vis au Sénégal plusieurs mois par an, où je suis impliquée avec des jeunes dans le développement local. Donc, pour moi qui a travaillé avec Yanamar, mais sans en faire partie, je voudrais dire qu'il s'agit d'un mouvement, pour moi, exemplaire, qui est pacifique, non violent. On pourrait dire activisme constructif. Ses responsables sont engagés dans le sens profond du mot engagement, personnellement et professionnellement. Et je voulais donner un exemple que j'ai vécu moi-même. Il y a un an au Sénégal, plusieurs responsables du Yanamar sont venus travailler pendant 4 jours avec des jeunes de ma communauté rurale près de Saint-Louis. Sans aucune publicité, les Yanamar ont animé des ateliers. On appelait ça une école citoyenne afin que ces jeunes puissent prendre leur place dans la société et mener effectivement des actions concrètes. Les ateliers ont été organisés autour du sens même du mot citoyen, les efforts à faire individuellement et collectivement, et les projets à conduire dans des domaines prioritaires liés au tourisme et à l'environnement.
Ouais, oui, parce qu'ils sont fortement impliqués dans les questions de bonne gouvernance, de démocratie, mais pas que. Ils s'intéressent également, effectivement, à l'environnement. Un auditeur disait, mais ils ont même mobilisé la population pour donner le sang. À un moment donné, il fallait du sang. Et bien, effectivement, Yanamar s'est mobilisé. Merci à vous de ce témoignage. Mamadou, très vite, je suis désolé. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, mais c'est bien d'avoir des points de vue un peu divergents. Vous saluez la libération, évidemment, de ces militants, mais en même temps, vous dites, voilà, pourquoi ils sont allés là-bas? C'était pas le bon moment d'aller à Kinshasa.
Oui, et surtout, moi, je voulais réagir sur le fait qu'il y a un péril. Il y a un péril. C'est vrai que actuellement le mouvement a le vent en poupe, mais il y a un péril. Ils peuvent, leur mouvement peut être récupéré politiquement. Ça, c'est le premier péril. Et le second péril, c'est que le discours, quand il est trop politique, on ne peut pas établir des paradigmes. Les situations ne sont pas interchangeables. Vous comprenez? Les acteurs, les thématiques ne sont pas interchangeables. Donc, il faut rester vraiment dans l'action citoyenne, comme l'a dit tout à l'heure l'auditrice qui
Carole, oui.
Vraiment rester dans l'action citoyenne, essayer de contrôler l'action des pouvoirs publics, mais ne pas se substituer, n'est-ce pas, aux hommes politiques qui sont...
Là c'était pas le but. Là, c'était vraiment participer à un séminaire pour sensibiliser la jeunesse congolaise aux questions de bonne gouvernance. Merci à vous tous de votre fidélité. Lundi, on parlera du climat politique en France et surtout du pays.